7h41, la dette publique, sa vie, son œuvre, quel montant et puis surtout que faire d'une telle dette publique ? Faut-il l'annuler ? Faut-il s'apprêter à la régler ? Nous, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour en parler, je suis en compagnie de deux économistes. Laurent Cialhomme, bonjour, vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université de Paris 10 Nanterre, membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. En face de vous, Natacha Valla, vous êtes économiste, doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po, et vous allez publier le 24 février prochain, le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob. Tout d'abord, un premier point sur cette dette, la dette publique française, Natacha Valla. Comment croit-elle ? Qu'est-ce que l'on peut imaginer en matière de dimension de cette dette publique ?
Alors, la dette publique, elle a augmenté fortement dans toutes les économies avancées du fait du traitement de la crise du Covid depuis l'année dernière. On peut considérer en France que le ratio de dette publique sur PIB, donc sur le produit annuel que le pays est capable de créer, va se stabiliser autour de 120%. 120%, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que l'Allemagne, c'est moins que d'autres pays. On pense par exemple au Japon. Et ce qu'il faut regarder surtout, c'est ne pas stigmatiser un comportement d'endettement qui est formulé dans une période de crise. On a eu un choc exceptionnel avec cette pandémie. L'ensemble des économistes, je pense que ça fait vraiment consensus, s'accordent à dire qu'il fallait vraiment dépenser sans compter, j'allais dire, pour s'assurer que le choc frontal que cette crise a créé n'affaiblisse pas trop les économies, ne frappe pas trop les plus faibles et garde une certaine cohésion au système qui permet de générer de la croissance. Parce que finalement, dans ce ratio que j'ai décrit, donc le stock de dette sur le PIB national, c'est un ratio. Donc, si on est capable de générer, de maintenir de la croissance, on est capable de réduire cette fraction. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que le choc sur la croissance soit le moins douloureux possible. Mais aussi, et je pense que c'est un point dont on pourra parler tout au long de notre discussion, de faire en sorte aussi qu'au sortir de la crise, étant donné un niveau un stock de dette, on soit capable de générer de la croissance économique qui fasse réduire ce ratio et qui permette de s'en sortir finalement sans trop de dégâts.
Alors ça, on va en parler, mais Laurent Cialhomme, tout d'abord, votre point de vue sur ce niveau de dette, la manière dont celle-ci a été confectionnée.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Natacha. Il est très important que les États continuent à s'endetter et il était évidemment indispensable qu'ils s'endettent massivement pour atténuer le choc sur l'économie réelle de la crise de la Covid. Je dirais que le risque aujourd'hui, c'est justement qu'ils veuillent trop rapidement cesser cette progression de la dette et donc très rapidement, une fois la crise sanitaire passée, revenir au business as usual. Il n'y aurait rien de pire que cette situation. Pourquoi ? Eh bien parce que nous faisons face à deux crises majeures qui sont pour certaines à venir, ou en tout cas on n'en a pas encore toute la perception. La première, c'est que nous sommes dans un environnement macroéconomique où les pressions déflationnistes sont excessivement fortes et elles vont s'accroître parce que ce choc de la crise Covid,
pression déflationniste.
C'est-à-dire le risque que, plutôt que d'avoir de l'inflation, on ait des prix qui baissent.
Or, si vous voulez. C'est bien les prix qui baissent.
Ben non, c'est très mauvais les prix qui baissent. Parce que vous savez, on sait lutter contre l'inflation. On peut avoir des remèdes très difficiles contre l'inflation socialement, mais on sait lutter contre l'inflation. Contre la déflation, on ne sait pas lutter. Parce que les taux d'intérêt nominaux, ils peuvent baisser un peu en dessous de zéro, ce qui est le cas actuellement, mais pas beaucoup, beaucoup en dessous de zéro. Alors ça veut dire que les taux d'intérêt réels deviennent très positifs, et ça, on est englué dans des situations dont on ne peut pas sortir. Or, actuellement, la dette privée est très forte. Et donc on a un risque de déflation par la dette, c'est-à-dire que tout le monde veuille se désendetter en même temps.
On va reparler de ce risque de déflation.
La deuxième chose, c'est la transition écologique. C'est-à-dire qu'on a des besoins excessivement massifs d'investissement dans la transition écologique et les plans de relance actuels ne sont pas du tout calibrés pour ça.
Bon, Natacha Valla, expliquez-nous pourquoi on nous a seriné, pardonnez-moi l'expression, au sujet de la dette pendant tant d'années et aujourd'hui celle-ci gonfle de manière importante et là on nous dit que c'est bien que celle-ci enfle. Qu'est-ce qui se passait avant qui ne se passe plus aujourd'hui, qui justifie que l'on puisse laisser cette dette augmenter?
Alors, je dirais les choses un tout petit peu différemment. Je ne dis pas que c'est bien que la dette enfle. Je dis que c'est bien qu'il y ait de la dépense publique pour venir en soutien à ce choc massif qui nous a affectés. Maintenant, ce qui est très important aussi pour les générations futures, c'est que cette dette, elle soit stabilisée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle n'explose pas, qu'on n'accumule pas de plus en plus de dettes, de plus en plus de dettes, puisqu'on voit bien intuitivement que si on s'endette trop de façon inconsidérée, quand on s'endette, il y a un prêteur en face et que ça pourrait, un jour ou l'autre, poser problème à ceux qui sont les créditeurs.
Là, pour l'instant, cette dette, elle va continuer à enfler.
Alors, c'est un point de discussion, précisément, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Si on est capable de faire de la croissance, alors on arrivera à la rembourser sans trop de heurts.
Je parle de la fin, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Oui. La fin de cette crise, la fin n'est malheureusement pas aujourd'hui visible. On ne sait pas quand est-ce qu'elle interviendra. Tant qu'il y aura des commerces fermés, des restaurants fermés, il faudra bien que la puissance publique continue à indemniser en partie au moins ces commerces fermés.
C'est certain. Mais il faudra vraiment réfléchir à la façon dont on utilise, c'est un peu mon point de vue, cet argent public. C'est-à-dire qu'on, dans le choc initial, on dépense sans trop de discernement parce qu'on veut, en gros, créer de l'assurance pour la société, pour tous les aspects de la société et de l'économie. Puis plus ça dure, plus on a envie de se dire que cet argent dépensé, il doit aussi être là pour favoriser bien finalement cette croissance dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir aussi, pour moi c'est un point essentiel, on se focalise sur le stock de dette. Ce qui est important, c'est les conditions de financement et de refinancement de la dette. Ça fait très longtemps que les États émettent des obligations, et puis quand l'obligation arrive à échéance, eh bien l'obligation revient, mais elles émettent une autre, les États émettent une autre obligation et la dette est roulée comme ça dans le temps. Et tout se passe bien. C'est-à-dire que tant que les conditions de financement sont stables, Laurence évoquait le fait que les taux d'intérêt soient très bas, voire même négatifs, les choses fonctionnent plutôt bien. Donc pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est de préserver la stabilité de ces conditions de financement, préserver les taux bas et préserver finalement le comportement des investisseurs qui aujourd'hui achètent la dette publique française.
Oui, parce que
Puis la Banque Centrale, évidemment, qui en achète quand même massivement.
Oui, parce qu'on évoquait Carlos Menem, Et l'Argentine. L'Argentine a été dans une situation où la dette n'était plus soutenable. Qu'est-ce qui nous distingue, Laurence Cialhomme?
Alors, énormément de choses nous distinguent, heureusement, de l'Argentine. Tout d'abord, le fait que la signature de l'État, évidemment, et d'ailleurs, les défauts argentins se sont produits alors que le niveau de dette est très inférieur au nôtre. Donc, il ne faut pas confondre les choses. En plus de ça, il y a la monnaie qui libelle les contrats de dette. Enfin, il y a énormément de choses, mais là, je pense qu'on s'est éloigne un peu. Donc, je pense effectivement que les dettes sont soutenables. Il n'y a aucun doute là-dessus aujourd'hui. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut faire très attention à ce que l'on fait de l'argent dépensé. Mais par contre, sur le fait de retrouver de la croissance, je pense qu'il faut faire très attention. Retrouver de la croissance en refaisant l'économie d'hier, ça serait une erreur massive. Et notamment parce que on ne sait pas aujourd'hui décorréler la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Or, en réalité, on a 15-20 ans maximum pour agir très massivement. Donc ça veut dire que cet argent doit essentiellement être utilisé pour construire et investir sur l'économie de demain, c'est-à-dire pour la reconversion écologique des économies. Donc ça veut dire que ça doit être de l'investissement essentiellement, de l'investissement dans tout ce qui est rénovation thermique, mobilité douce, l'agriculture qui soit non dépendante des pesticides comme elle l'est actuellement, l'éducation et la recherche massivement, et la santé. Et donc, investir dans l'économie de demain, ça c'est fondamental. Pour ce qui est de la soutenabilité, la grosse différence qu'il y a, parce qu'on nous dit, mais regardez, le Japon peut tenir avec une dette de 140%, etc., il n'y a pas de problème, bon. La grosse différence qu'on a en Europe, et il faut y réfléchir, c'est qu'on a une monnaie, une banque centrale, donc une monnaie fédérale, centrale fédérale. Par contre, on a 19 dettes souveraines. Et donc ça veut dire qu'on a une banque centrale, mais qui ne détient pas la dette d'un État fédéral ou d'un État central, mais qui détient 19 risques souverains en même temps. Ce qui crée une fragilité, parce que
Pourquoi ?
Ça crée une fragilité parce qu'on est la seule union monétaire en fait au monde, et dans l'histoire il n'y en a pas qui a tenu, où on a une monnaie qui est une monnaie fédérale, mais on n'a pas de budget fédéral, on n'a pas d'union budgétaire. Et ça, effectivement, c'est une énorme fragilité.
Mais alors ça, il va falloir que vous nous expliquiez, par exemple, Natacha Valla, puisque votre livre porte sur le futur de la monnaie. Quel est le lien entre la monnaie, donc là en l'occurrence une monnaie fédérale, et la dette? Pourquoi y a-t-il un lien ténu et dès lors un hiatus, puisque effectivement les dettes européennes ne sont pas identiques d'un pays à l'autre alors que la monnaie est la même?
Alors c'est un point absolument essentiel que Laurence a abordé. Elle a aussi employé le mot confiance et le mot crédibilité. Et je pense que dans le cas d'une union monétaire telle qu'est la nôtre, c'est-à-dire telle qu'est celle qui constitue l'euro, les générations qui... L'euro a 20 ans, donc les jeunes aujourd'hui, ils n'ont connu que ça. Mais Laurence a souligné le point essentiel, je dirais deux choses. La première chose, c'est qu'il est absolument fondamental, et encore plus pour l'euro que pour le dollar, le sterling ou le yen, que la monnaie soit crédible, c'est-à-dire que les utilisateurs de la monnaie aient confiance en cette monnaie, et donc confiance en qui émet cette monnaie. Pour moi, il y a un lien absolument consubstantiel entre la monnaie, qui est une dette en réalité. Quand j'échange quelque chose contre une monnaie, de facto, de fait, j'émets une sorte de titre de dette. Donc la monnaie, quelque part, c'est un petit peu comme la deuxième face de la même pièce qui serait la dette. Première chose, confiance en la Banque Centrale Européenne et le système européen des banques centrales. Et j'énoncerai un petit peu les conditions pour que cette confiance soit maintenue. Et donc aussi confiance en la signature de l'État. La signature de l'État, c'est effectivement, malheureusement aujourd'hui, on a 19 signatures d'État en face d'une banque centrale. Aujourd'hui, ce qui est complètement nouveau par rapport à ce qui peut être le cas ailleurs ou dans le passé, c'est que la banque centrale, pour assouplir sa politique monétaire, pour venir en soutien à l'économie du fait de la crise, mais pas seulement, non seulement elle a abaissé les taux et les a positionnés en territoire négatif, mais elle s'est mise à acheter massivement des titres de dette publique.
Je pense qu'il faut expliquer ce qu'est un taux négatif parce que c'est finalement assez compliqué à comprendre.
Alors, on va pas rentrer dans quel taux est négatif, c'est des taux de dépôt, etc. Ça, c'est pas très important pour
mais le principe.
Le principe, c'est que je vous prête 100 et vous me rendez 98. Enfin, j'exagère parce qu'on n'en est pas à deux.
Justement, ce principe-là, il est très contre-intuitif. Et dans ces conditions, tout le monde a envie d'emprunter de l'argent, Natacha Valla.
Bien sûr, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on invite les États, par exemple, à se refinancer à long terme. C'est-à-dire, je vais rallonger ce qu'on appelle la maturité de ma dette, parce que ça me coûte moins cher aujourd'hui que ça pouvait me coûter il y a 10 ans de m'endetter. C'est le prix, ce taux-là, qui est à l'inverse du prix du temps, en fait. Il faut se rendre compte que même philosophiquement, on inverse le prix du temps. C'est-à-dire qu'on met plus de poids au temps présent, enfin, au temps futur qu'au temps présent. Donc c'est très, très contre-intuitif et ça peut générer des comportements un petit peu bizarres aussi. Mais on dit aujourd'hui que voilà, on peut s'endetter. Les prêteurs sont prêts à payer une petite marge, finalement, pour que, en quelque sorte, leur capital soit plus ou moins préservé. Donc ça en dit beaucoup sur le niveau d'aversion au risque des investisseurs de façon générale, mais ça en dit aussi sur la volonté de la Banque centrale de venir en soutien. Alors, elle a non seulement mis des taux négatifs, mais elle a acheté beaucoup de dettes. Et ça, c'est un vrai sujet dans l'union monétaire aujourd'hui, parce que une banque centrale qui est un peu assise banque allemande sur 19 émetteurs va racheter de la dette publique. Quand on avait signé le traité qui a mis en place le système européen des banques centrales, les Allemands avaient dit « on veut surtout pas qu'il y ait du financement monétaire des dettes publiques ». Donc soyons très très prudents.
On va revenir là-dessus. Oui. Laurence Yalom, vous évoquiez la question climatique. Est-ce que le fait justement de financer un certain nombre d'activités qui sont perçues comme polluantes, alors même qu'elles sont à l'arrêt, je pense par exemple à l'aéronautique, le fait de maintenir à flot des compagnies aériennes qui aujourd'hui seraient toutes dans une situation extrêmement scabreuse si elles n'avaient pas des financements d'État, qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je pense que dans l'urgence, il fallait effectivement soutenir un certain nombre d'activités, mais il aurait fallu poser des conditionnalités en réalité aux entreprises dont on sait qu'elles sont appelées à fortement réduire la voilure si on veut réussir la transition écologique. Donc, dans l'urgence, il était normal, si vous voulez, je pense, de dépenser quoi qu'il en coûte pour soutenir, mais la question, c'est après d'arriver à se projeter et d'arriver à reconvertir, par exemple, les salariés qui travaillent dans ces secteurs aux nouveaux métiers de la transition écologique. Et ça, cette projection, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment mise en œuvre par le gouvernement. Je voudrais juste rebondir un peu sur ce qu'a dit Natacha à propos de la politique de la BCE. Alors certes, la BCE maintient des taux d'intérêt excessivement bas, permet aux États de se refinancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces taux négatifs, on les a déjà depuis plusieurs années, bien avant la pandémie. Pour autant, les États n'ont pas investi dans la transition écologique durant ces périodes où les taux, enfin c'était une période miraculeuse. Ils ont essayé de se désendetter. Le gros risque face auquel on est aujourd'hui, c'est que la pandémie terminée, et on a bien la petite musique de cela, hein, déjà à travers certaines déclarations d'hommes politiques français et ailleurs, qu'on revienne à la volonté de resserrer les... Or là, j'insiste lourdement, mais on a un gap considérable entre les plans de relance tels qu'ils sont organisés et ce dont on a besoin. Et vous voyez, le système climatique, c'est pas quelque chose où il y a une marche arrière. Si on n'agit pas immédiatement, très massivement, on va vers une Terre qui est proprement invivable à échéance d'un siècle. Même pas. On est sur une trajectoire plus 4, 4,5 degrés. Or, un assureur célèbre, en 2015, PDG d'AXA, nous disait « Un monde à plus 4 degrés, je suis incapable de l'assurer. » Un monde non assuré, c'est un monde... mais qui s'effondre aujourd'hui dans nos économies. Il faut avoir conscience de ça. Et donc la pandémie qu'on vit actuellement a exactement les mêmes sources. Donc il faut être clair, on va vers un monde où si on n'agit pas massivement aujourd'hui, l'économie telle qu'on la connaît, le monde tel qu'on le connaît, on va avoir des pandémies récurrentes, on va avoir un monde qui s'effondre, des parties entières de la Terre qui seront non habitables.
Natacha Valla.
Alors, je ne peux être plus d'accord avec ce qui a été dit. Ça nous amène à la question de la composition des dépenses publiques et de la gouvernance des dépenses publiques. Une condition quand même sous-jacente qui me semble assez importante quand même si on veut viser le long terme, c'est malgré tout que dans la décision de dépenses publiques, on essaye de faire en sorte que à l'équilibre, le budget soit équilibré. C'est-à-dire que année après année, on peut pas de façon comme ça naturelle se dire je dépense plus que ce que je reçois. Pourquoi ? Parce que dans le fond, c'est justifié. Donc, je serais entièrement d'accord avec Laurence, à condition qu'on soit capable de revenir sur un horizon pas trop long à des finances publiques équilibrées pour qu'on puisse maintenir et rouler cette dette. Et alors là, sur la composition de la dépense publique, il me semble qu'il faut vraiment mettre l'accent. Alors, Laurence est beaucoup plus compétente que moi sur les questions de comment être efficace pour la transition écologique, mais moi, j'ajouterais une chose à cela, c'est que si on veut, et il y a des travaux très très intéressants, notamment de l'économiste Subramanian, sur les conditions qui nous permettent d'être performants dans ce domaine, comme dans tous les domaines d'innovation, dépenser dans la recherche et le développement, mais aussi, et c'est une condition nécessaire, dans l'éducation. Le niveau de maths en CE2 s'est montré être de façon très très complémentaire à notre capacité à faire de la bonne recherche et de la bonne innovation, notamment dans le secteur écologique.
Natacha Valla, Laurence Cialom, on se retrouve dans quelques instants. Je rappelle juste le titre de votre ouvrage, Natacha Valla, avec Michel Aglietta. Le futur de la monnaie, il paraîtra le 24 février prochain. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. Nous évoquons la dette publique. Nous sommes en compagnie de deux économistes. Laurence Cialom, vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université Paris 10 Nanterre, membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Natacha Valla, vous êtes doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po et vous allez publier avec Michel Aglietta Le futur de la monnaie aux éditions Odile Jacob le 24 février prochain. Natacha Valla, si on annule la dette, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on songe évidemment tous à ce qui se passe dans les dettes ordinaires. On se dit que si on annule une dette, eh bien, il y a un créancier qui va être lésé. Est-ce que ça se passe comme ça avec les dettes souveraines?
Déjà, pourquoi annuler la dette aujourd'hui? Pour moi, c'est une question qui n'est pas d'actualité, puisqu'on arrive à la refinancer correctement dans des conditions qui sont plus que parfaites, puisque parfois à des taux négatifs. Donc l'urgence pour moi, c'est de ne rien faire. La vraie spécificité de l'environnement de qui détient la dette aujourd'hui, c'est que pour la dette française, par exemple, il y a à peu près 25% du stock qui est détenu par la banque centrale qui émet la monnaie. Donc on entend des propositions qui consistent à dire, voilà, bon, cet argent, on se le doit à nous-mêmes, puisque la banque centrale, c'est quand même l'entité publique qui émet l'euro, donc effaçons cela de son bilan, et puis ça nous enlève un petit tiers de ce qu'on doit, et tout est
dormira mieux.
Moi, je pense que ça, c'est vraiment problématique, ou en tout cas dans des circonstances qui ne l'appellent pas. Je trouve ça dommage de poser cette question. Pourquoi ? Parce que si on décidait d'annuler une partie de la dette au bilan de la BCE, il en reste quand même 75% en dehors de ce bilan. Notamment, dans ces 75%, il y en a 25 qui sont détenus par des institutionnels, c'est-à-dire vos compagnies d'assurance, les fonds de pension, les banques. Donc, ces détenteurs-là, plus la moitié, les 50% grosso modo, qui sont des investisseurs internationaux, donc qui sont en dehors de la zone euro, vont se dire, avec la meilleure volonté du monde, moi, un souverain qui fait défaut, je vais mettre ce qu'on appelle une probabilité de défaut à ma détention de dette, et donc je vais demander une rétribution plus importante. Et donc, ce faisant, on risque de déstabiliser des conditions de financement qui aujourd'hui sont très stables parce qu'elles sont le résultat de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand même qu'on joue avec le feu. Parce que Laurence énonçait tout à l'heure qu'on avait ces quantités de monnaie émises pour acheter de la dette publique qui n'était pas très bien employée du point de vue écologique. C'est que ça, je suis assez d'accord avec ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on a émis de la monnaie, effectivement. Et que pour créer l'euro, on s'est tous mis d'accord. On a tous fait des compromis. Et une des conditions qui était quand même une des conditions sine qua non pour nos amis outre-Rhin, mais pas seulement dans l'état d'esprit de l'époque, c'était de se dire jamais on utilisera la planche à billets pour faire de la dépense publique. Or, aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment sur le fil.
Ça veut dire quoi, utiliser de la planche à billets pour faire de la dépense publique?
Ça veut dire créer de l'euro, créer des liquidités. Ça, la Banque centrale peut le faire. C'est Deus ex machina. La Banque centrale, elle peut vraiment augmenter son bilan pour acheter ce qu'elle veut, en réalité, en face. Et alors, on se dit peut-être qu'il faudrait acheter des obligations qui sont plus portées sur la transition écologique. C'est un long raisonnement, mais je suis assez d'accord avec ça. Mais on a aujourd'hui émis beaucoup d'euros. Et donc, si on explique à nos partenaires européens qu'on ne va pas rembourser une partie de cette dette-là, ça va être très compliqué pour maintenir la volonté commune d'avoir un euro qui est quand même ce qui nous a permis en Europe de passer à travers la crise de 2008, la crise de 2012, de 2015 et le Covid de façon quand même assez stable.
Laurence Yalom, justement, alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ce que je voudrais dire, c'est
d'abord,
que...
D'abord, est-ce qu'il faut l'annuler ou pas, cette
alors,
dette?
Alors, je pense, nous, la proposition qu'on porte, et qui a été portée également par près de 150 économistes européens, c'est l'idée que la BCE, c'est le seul acteur dans l'économie qui peut se permettre un abandon de créance. C'est-à-dire, ce n'est pas un défaut souverain. C'est pas la volonté des États de faire défaut sur leur dette. C'est la BCE qui, unilatéralement, dirait, avec un accord politique de très haut niveau, évidemment, qui dirait, ben voilà, j'abandonne progressivement la dette de certains États en contrepartie d'investissement dans la transition écologique et sociale, c'est-à-dire pour construire le monde de demain, pour permettre d'avoir un futur meilleur, ce qui, à mon avis, est un gage de réussite, et notamment parce que la BCE peut expliquer pourquoi. Les fonds de pension, les assurances vie ne perdraient absolument rien dans l'histoire. C'est pas un abandon de créance pour réduire l'endettement public, c'est pour dégager des marges de manœuvre budgétaires pour permettre justement d'arriver à faire cette transition écologique. Alors que dans des pays, par exemple, comme l'Angleterre, les États-Unis, etc., vous avez un État fédéral. Donc cette coordination politique monétaire, politique budgétaire, est beaucoup plus facile à obtenir. En Europe, malheureusement, nous n'avons pas cette entité budgétaire. Et donc, il faut essayer d'avoir des solutions innovantes. Par ailleurs, quand on dit les traités ne permettent pas ce type de solution, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les traités ont été adoptés à un moment où les problèmes macroéconomiques et les problèmes environnementaux, en tout cas la conscience qu'on en avait, n'avaient strictement rien à voir. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire, évidemment. Si on regarde la finalité des traités, on était obsédé par le non-retour de l'inflation au moment où on a fait les traités, et le niveau d'endettement public n'avait rien à voir. Le problème, c'était l'inflation, pas la déflation. Il y avait des problèmes écologiques, mais on n'en avait pas cette conscience extrême. Donc, soyons très clairs, l'idée c'est, cette idée, si elle paraît iconoclaste, c'est pour pallier aux déficiences de construction européenne. Ça nous semble être une des seules solutions pour obliger les États à investir là où il faut investir, par cette espèce de contrat. Et puis, quand on regarde l'histoire, c'est pas si iconoclaste que ça, en réalité. Quand on regarde l'histoire, les banques centrales, dans l'histoire longue du central banking, ont été capables de revirements, mais drastiques, de leur doctrine, de leur pratique, après, au moment de guerre, notamment, et de crise économique majeure. Quand vous regardez comment les banques centrales agissaient dans les années 20, et comment elles ont agi dans les années, fin des années 30 et après-guerre, ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez, on n'est pas figé. L'histoire du capitalisme, c'est une histoire mouvante et où les institutions s'adaptent aux nouvelles conditions. Donc simplement, si vous voulez, cette proposition qui paraît iconoclaste, ben on l'a fait simplement parce que justement, on ne peut pas monétiser.
Moi, il me semble qu'il y a quand même un principe qui est essentiel, c'est un principe démocratique. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Laurence, même si je suis d'accord avec l'esprit. Pour moi, une banque centrale, et dans l'histoire des banques centrales, on a réussi à comprendre collectivement que c'était important d'avoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique, précisément pour éviter qu'on ait une prise en otage de l'émetteur monétaire dans des buts qui sont pas forcément les bons. Alors, pour moi, la transition écologique, elle est très légitime, mais elle est légitime pour des entités qui sont des entités démocratiques. Ce sont les parlements, ce sont les gouvernements qui sont élus, qui doivent prendre ce type de décision. Ils pourront les prendre d'autant mieux qu'ils peuvent s'adosser sur une institution qui émet la monnaie, qui est irréprochable et solide.
Alors, une réponse.
Alors, je pense que l'indépendance des banques centrales n'est pas du tout immuable. C'est un principe qui a correspondu à la financiarisation des économies. Effectivement, il y avait toute une littérature sur le cycle électoral qui a justifié l'indépendance des banques centrales. Mais de nouveau, quand vous regardez dans l'histoire, il y a des phases où les banques centrales ont été dans une relation qui était une relation, très détachée des États. Et puis, il y a des phases, notamment dans les phases de grande crise, où les banques centrales ont été, d'une certaine manière, les bras armés des États. Et puis après, on revient à une autre situation, si vous voulez. La question, c'est que là, on est face à une situation où on a peu de temps pour agir. Et les banques centrales sont l'acteur, compte tenu des carences institutionnelles, les acteurs majeurs qui peuvent nous permettre et de faire la transition écologique par la modification de leur capacité d'action, verdir la politique monétaire et faire une politique macroprudentielle verte, et en même temps dégager des marges budgétaires aux États. Alors, l'idée du principe démocratique, moi je pense que justement, la monnaie, du fait de son lien avec le souverain, ne doit pas échapper justement au contrôle démocratique. Ça, précisément, là, je pense qu'il y a un clivage fort.
Mais oui, parce que cette indépendance de la politique monétaire, on la prend dans les livres, effectivement, Natacha Valla, mais on a parfois du mal à la comprendre, surtout dans ce type de circonstances, où on se dit que tout le monde lutte contre cette pandémie, ou plus exactement contre les conséquences économiques de cette pandémie. Pourquoi et une banque centrale, ne ferait-elle pas aussi sa part de travail dans ce domaine?
Moi, elle fait sa part de travail, de fait. Moi, je voulais prendre un exemple. Je félicite le système actuel que la Réserve fédérale n'a pas été entre les mains de Donald Trump pendant qu'il était président. Donc on a besoin de se prémunir.
Parce que c'était, selon vous, un mauvais président, mais s'il avait été un bon président.
En termes de transition écologique, ça n'aurait pas amené les résultats qu'on souhaitait. Mais pour moi, dans le cadre institutionnel actuel, permet tout à fait d'atteindre l'objectif que souhaite Laurence, c'est-à-dire d'aller vers cette dépense publique qui est vraiment en lien, en cohérence avec les urgences qui sont en face de nous. Pour moi, le vrai travail, il ne se situe pas là. Il se situe dans le travail sur les normes, notamment les normes comptables, extra-financières, qui vont permettre, alors c'est en deux temps, et ça implique la Banque centrale, mais si on arrivait par des normes qui nous permettent finalement de tangibiliser cet actif écologique, cet actif de biodiversité, et de faire rentrer dans des choses qui peuvent être mises dans un bilan de banque centrale, des actifs financiers.
Alors attendez, parce que là, je pense que ça mérite quand même quelques éclaircissements. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, on ne valorise pas les gains en matière écologique, et que le fait que ça ne soit pas valorisé, économie, si ça n'est pas valorisé, ça n'existe pas.
Voilà, et ça, c'est pas à la banque centrale de le faire, c'est sans doute pas au gouvernement de le faire. Il faut vraiment un travail.
Donc ça, c'est une question politique.
Bien sûr, c'est une question scientifique, politique, c'est une question de normes et finalement d'expression des valeurs de la société dans les normes comptables souveraines, dans les, enfin, pour les États de comptabilité publique, dans les normes comptables même de comptabilité nationale et de comptabilité des entreprises. Donc quand on aura fait ce travail, on n'a pas besoin de toucher au statut des banques centrales, on leur donnera les outils qui leur permettront de faire leur travail dans ce cadre qui leur permette de nous donner une stabilité tout en étant en logique avec ces objectifs.
Mais Laurence Calom, c'est effectivement un but louable, mais il n'y a pas unanimisme en matière donc de transition écologique. J'ai par exemple sous les yeux le Wall Street Journal qui parle de la création de mini-réacteurs nucléaires. Alors, on connaît le débat autour du nucléaire. Il n'y a pas de rejet de carbone avec une centrale nucléaire, mais il y a d'autres conséquences qui peuvent être perçues comme étant, sur le plan écologique, parfaitement néfastes. C'est juste un exemple pour vous dire que finalement, votre transition écologique, certes, il faut la financer, mais déjà, il n'y a pas consensus sur les moyens de la faire.
Alors, qu'il n'y ait pas de consensus, effectivement, sur les questions de technologie, c'est-à-dire, et il y a effectivement aussi le risque de la croyance que la technologie va nous sauver. Alors, de ce point de vue, vous avez raison. Je voudrais revenir juste une seconde sur ce que disait Natacha. Natacha a parfaitement raison sur la nécessité, et c'est impératif, de transformer les normes comptables qui véhiculent une vision du monde qui correspondait au monde d'avant.
Bon, pour autant,
le problème, c'est que là, il y a urgence. On épuise notre budget carbone. Le budget carbone, c'est la masse de CO2 que l'on peut encore émettre, compte tenu de tout ce qu'on a déjà émis, pour rester sous les 2 degrés. On a 15 ans pour agir. Les normes comptables, Natacha, tu avoueras que c'est pas demain qu'on va les avoir. Or, c'est immédiatement qu'il faut agir et massivement. D'où le caractère iconoclaste de notre proposition. Notre proposition, elle répond avant tout à l'urgence. Ça ne veut pas dire qu'on annulera tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on va annuler toutes les dettes. Mais il faut enclencher ce processus. Et il est tout à fait possible d'avoir un narratif qui explique, par exemple, on a accumulé un déficit d'inflation. Eh bien, on pourrait très bien dire, la Banque centrale, elle fait les choses progressivement. Elle crée pas de la monnaie. Hein. La monnaie a déjà été émise. Hein. Simplement, elle fait qu'elle est émise de manière éternelle. Elle pourrait très bien dire, à partir du moment où on atteint l'inflation cumulée qu'on a perdue, qu'on n'a pas fait, eh ben on s'arrête. Mais on aura enclenché et on aura donné le temps à Natacha et à tous les gens qui travaillent sur les normes comptables, eh bien d'avoir finalisé leur travail. C'est un problème d'urgence en fait.
Mais la Banque centrale peut le faire, et j'allais dire qu'elle le fait. Aujourd'hui, dans ses portefeuilles de titres souverains, elle s'est engagée non seulement à avoir des taux négatifs, non seulement à acheter de la dette publique, mais elle s'est engagée à réinvestir ses portefeuilles. Alors, Laurence va me dire, à horizon 2023, c'est dans 2 heures. Mais déjà quand même, c'est un avantage et ça permet de montrer la vision à long terme et le degré de sagesse des banquiers centraux aujourd'hui.
Alors donc, ça c'est pour ce débat autour de la dette et de son annulation. On a entendu vos arguments à toutes les deux. Laurence Calom, vous évoquiez un risque déflationniste tout à l'heure, c'est-à-dire le risque que les prix baissent et la déflation est un mal terrible dans une économie. C'est la contraction de l'économie avec des difficultés épouvantables, même si, à première vue, la diminution des prix peut passer pour une bonne chose. En réalité, dans une économie réelle, ça n'est pas une bonne chose. Mais, dans le même temps, on voit toute une série de choses. J'évoquais, par exemple, cette information sur les containers, sur le prix de transport des containers, avec une augmentation significative, une multiplication par 4, qui témoigne d'une augmentation du commerce mondial et de tensions sur les semi-conducteurs avec une augmentation des prix. Bref, on a l'impression que la période est plutôt à l'augmentation des prix et, mais ce n'est pas la même chose, à l'augmentation des actifs. Par exemple, les cours boursiers d'un grand nombre d'entreprises sont en croissance forte. Est-ce que tout ça, ça cadre avec cette menace de déflation que vous agitiez tout à l'heure ?
Alors oui, je pense que, alors sur la question des prix d'actifs, effectivement, et c'est un des effets pervers de la politique monétaire de QE, c'est que maintenir les taux d'intérêt,
QE, c'est quantitative
easing, pardon, excusez-moi. Enfin, disons des politiques que mènent les banques centrales après la crise.
Mais là, il faut définir ce qu'est le quantitative easing.
C'est-à-dire l'achat massif d'actifs, notamment de dette publique, par les banques centrales qu'elles conservent à leur bilan. Et donc, en fait...
Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a énormément d'argent qui est injecté dans l'économie.
Bien sûr, et dans le circuit financier. Attention, la banque centrale, c'est pas de l'argent qui atterrit dans votre poche. Hein. C'est pas de la monnaie hélicoptère. Ce sont des réserves qu'elle crée, c'est-à-dire de la monnaie qui est créditée au compte des banques et qui circule dans ce circuit financier. Ça alimente beaucoup les bulles sur les prix d'actifs, c'est-à-dire les actifs déjà existants, immobiliers et actifs financiers. Par contre, ce qu'on observe depuis que ces politiques sont mises en œuvre, c'est qu'il y a assez peu de retombées sur l'économie réelle. L'investissement reste atone. L'investissement privé et l'investissement public. Or, c'est de ça dont on a besoin pour la reconversion. Alors, c'est vrai ce que vous dites. On observe des tensions sur l'offre, notamment parce qu'il y a des perturbations dans les chaînes de valeur et effectivement, sur les semi-conducteurs, il peut y avoir des tensions, etc.
Pourquoi Ou parce que le commerce mondial avec la Chine, c'est en tout cas l'argument qui est invoqué, est en pleine surchauffe.
Oui, oui, bien sûr. Qu'il puisse y avoir ce type de tension, bien sûr. Moi, si je dis qu'il y a des tendances structurelles déflationnistes, c'est parce que ce choc est arrivé sur des économies où les agents privés sont surendettés. On avait eu plusieurs alertes du Haut Conseil de stabilité financière française, par exemple, sur l'endettement des entreprises. Or, qu'est-ce qui va se passer ? Quand les États vont cesser le soutien qu'ils font avec le chômage partiel, les prêts garantis, etc., on va voir là la réalité des choses. On va voir des entreprises qui vont faire faillite. On va avoir une montée du chômage. Bon, bref. Ce choc va arriver sur des bilans déjà très endettés. Qu'est-ce que vont essayer de faire la plupart des gens ? Ben, ils vont maintenir l'épargne de précaution, ils vont avoir peur pour leur emploi. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez avoir une pression sur la demande parce que les agents vont essayer de se désendetter. Et quand vous vous désendettez, ça veut dire que vos revenus, vous ne les attribuez pas à consommer ou investir, mais à vous désendetter. Donc c'est très déflationniste. Donc il y a des pressions très fortes, structurelles, à la déflation.
Moins de quoi est-ce que l'on peut dire que pour vous, cette déflation, elle va venir du fait que les entreprises vont moins investir et les ménages moins consommer ?
Bien sûr, c'est de pression sur la demande pour le désendettement, pour se désendetter.
Natacha Valla.
Alors, la question du désendettement, la France est un cas d'espèce quand même en la matière, parce que c'est vrai que c'est un des pays, quand on cumule la dette publique et la dette privée, un des pays les plus endettés, on est à peu près à 300% du PIB sur la France. Le Japon est à 400, l'Italie est à 250 ordre de grandeur.
Et donc les États-Unis sont dans un ordre de grandeur tout à fait différent.
C'est un petit peu moins, mais c'est quand même assez massif aux États-Unis parce qu'il y a vraiment les deux. Et puis ça va.
Mais l'endettement des ménages privés est bien plus important aux États-Unis.
En proportion, pas forcément, mais comme la masse est grande et surtout qu'elle évolue très vite aux États-Unis, ces choses-là évoluent très vite. C'est quand même un sujet. En revanche, moi, je serais moins inquiète que Laurence sur l'état déflationniste du monde. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a des différenciations assez fortes, précisément, et les données sur les containers, sur le commerce international, le montrent un petit peu de façon tangible. C'est que dans certaines zones géographiques, la croissance a repris. Dans les révisions des prévisions macroéconomiques, ça a été la saison, là, début d'année, on révise les prévisions économiques. En général, les révisions ont été effectuées à la hausse pour les États-Unis, à la baisse pour la zone euro. Donc on a une vraie différenciation. Il faut savoir que les taux de croissance qui sont anticipés pour 2021, en Chine, c'est 8%. C'est pas forcément déflationniste.
Ça veut dire que je pourrais citer par exemple le prix des matières premières qui est en forte augmentation.
Alors voilà, on a beaucoup de volatilité à ce niveau-là. Alors en plus, sur les matières premières, il y a des jeux géopolitiques qui se jouent.
La financiarisation aussi du marché des matières
premières. Aussi.
Il y a une part de financiarisation, mais il y a probablement aussi une part tout simplement liée au fait que l'économie mondiale dans de nombreuses régions est repartie à la hausse.
C'est ça, certains secteurs au niveau mondial sont en tension. Donc il y a de la surchauffe dans certains secteurs, des emplois qui ne peuvent pas être pourvus, etc. etc. Donc on a une différenciation qui, quand on les agrège, rend la lecture difficile. C'est pour ça qu'on a des points de vue aussi différents. Moi, je pense que les banques centrales ont donné de l'assurance à tout le monde. À quel prix ? Je suis entièrement d'accord. Il y a des effets quand même qui seront à regarder sur la stabilité financière. Mais on a donné de l'assurance contre des scénarios déflationnistes généralisés. Ça,
Alors, en fait, moi, je pense que c'est la zone euro qui est la zone la plus susceptible d'être sous les pressions déflationnistes. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. On parlait de la zone euro. Donc, tout ce que j'ai dit sur les tensions déflationnistes, c'est essentiellement la zone euro, à mon avis, qui est en risque aujourd'hui. Quand on regarde le plan de relance qui a été décidé par Joe Biden, Ben, ça va, je pense que les États-Unis ne sont pas du tout en risque, quoi. La Chine, évidemment, non. Non, c'est vraiment la zone euro. Et la zone euro, notamment du fait de sa construction. Hein, c'est...
Autre évolution considérable, là aussi, qui laisse pantois, on parle de plus en plus des crypto-monnaies, Natasha Valla, et notamment de l'une d'entre elles, le Bitcoin, qui a vu son cours s'envoler. Et là aussi, on est très étonné, puisque vous évoquiez tout à l'heure la monnaie et sa crédibilité, le fait que celle-ci a été adossée à un pouvoir qui avait de la crédibilité pour la garantir. Le Bitcoin n'est adossé à rien. D'ailleurs, il faudrait peut-être presque présenter ce qu'est le Bitcoin, puisque j'ai lu une définition amusante qui était « tout ce que vous ne comprenez pas sur la finance associé à tout ce que vous ne comprenez pas sur l'informatique ».
C'était pas Bill Gates qui disait ça. Ça lui ressemblerait bien.
C'est possible.
Non, je pense qu'il y a une confusion. Moi, j'ai rien contre le Bitcoin en tant que tel. Pour moi, le Bitcoin, c'est un actif financier. C'est un actif financier dont la valorisation peut évoluer à la baisse comme à la hausse. D'ailleurs, son histoire, sa relativement courte histoire dans l'histoire monétaire, c'est un micro-bébé, hein, le Bitcoin, a montré qu'on pouvait faire du plus 20 en 48 heures, du moins 30 en 24 heures. Donc, peut-être pas 24 heures, j'exagère, mais la volatilité est extrêmement forte. Donc, c'est un premier point. Une monnaie, en principe, on l'a construite pour qu'elle soit stable. Pourquoi ? Elle est liée, les monnaies souveraines sont liées à un souverain, donc à une dimension publique, à une dimension étatique. Et derrière cette dimension de souveraineté, il y a in fine, alors on pourra parler des fonctions de paiement, des fonctions de réserve de valeur, mais quand même, au bout du compte, quand il y a un problème sur la valorisation de la monnaie, il y a derrière un prêteur en dernier ressort. Et pourquoi le prêteur en dernier ressort, c'est un animal rare dans nos économies? C'est que pour être prêteur en dernier ressort, il faut qu'on bénéficie d'une crédibilité à toute épreuve. Mais chez ma grand-mère, chez l'entrepreneur, le pizzaiolo ou la boîte du CAC 40, il faut vraiment qu'on ait tous collectivement confiance en l'euro, le sterling, le dollar.
Ce qui veut dire que, Natasha Valla, on ne peut pas imaginer, par exemple, que l'on soit payé, que l'on ait des salaires versé en Bitcoin.
Bah, si vous souhaitez avoir une volatilité sur votre rétribution et bonusiser votre salaire, allez-y, sentez-vous libre. Mais en tout cas, moi, je ne prendrai pas cette décision.
Moi non plus.
Laurence,
c'est certainement moi non plus. Et je ne conseillerais jamais l'État de payer ses fonctionnaires en Bitcoin.
Au-delà de ça, est-ce que ça ne signifie pas que l'économie est en train de se transformer, qu'un certain nombre de choses que l'on croyait clairement établies, puisque le Bitcoin est apparu comme étant une manière de faire de la monnaie sans État, sans banque centrale, avec un système complètement en marge des institutions financières traditionnelles? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un vrai leurre?
Moi, ce que je pense, c'est que je ne dirais pas que c'est le Bitcoin qui a notamment qui annonce peut-être un monde futur. Je dirais plutôt que c'est le Libra. Le projet de Libra qui a été lancé et qui a d'ailleurs fortement ébranlé les banques centrales, hein, et qui a accéléré l'idée que les banques centrales aillent vers la monnaie centrale digitale.
Donc c'était le projet de Facebook.
Oui, et qui lui, justement, essayait de répondre à ce que disait Natacha, c'est-à-dire la stabilité, en fait, que ce soit moins spéculatif et que ce soit plus stable. Et là, je pense qu'il y a un énorme risque, parce que les GAFAM, du fait de leur accès à l'information, du fait de leur puissance, en fait, de gestion de l'information sur tout à chacun, ont les capacités, en fait, de faire ce type d'émission. Mais là, après, c'est un problème politique, hein, je veux dire, c'est aux États, et ils en ont les moyens, normalement, d'interdire l'usage, sur certains usages monétaires, de ce type d'actifs.
Vous pensez que les États, aujourd'hui, ont la possibilité d'interdire... Vous pouvez interdire l'usage du Bitcoin sur tel ou
non,
tel...
Non, mais vous pouvez... Bien sûr, mais je veux dire, si vous en limitez beaucoup l'usage dans les paiements, bah, de fait, ça n'a plus vocation à être une monnaie, mais à un actif financier, qui peut être spéculatif. Je pense que les États ont encore beaucoup à leur disposition de capacités à légiférer pour empêcher que ce type de monnaie puisse devenir. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est les monnaies centrales digitales. Ce qui s'annonce, ça, c'est excessivement intéressant.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les monnaies centrales digitales, il y a différents types de possibilités. Il y a le fait que des améliorations entre les banques, mais vraiment, ce qui serait de rupture, c'est que tout à chacun, vous et moi, on puisse avoir un compte à la banque centrale. Alors, pas évidemment remplacer tout notre compte de dépôt, hein, mais un accès direct. Et en termes de politique monétaire et de canaux de transmission de la politique monétaire, ça révolutionne beaucoup de choses.
Un mot de conclusion, Natacha Valla.
Je pense qu'il faut aussi se souvenir que la monnaie, c'est un lien social. C'est une dimension anthropologique essentielle. Elle forme le collectif, enfin je ne vais pas faire du Lacan à 8h du matin, mais il faut vraiment pas chercher à extraire ce lien de ce qu'on a su construire comme ensemble humain pendant des siècles, voire même des millénaires. Donc je pense qu'on a ces évolutions technologiques sont importantes. La monnaie digitale de Banque Centrale, ça va être une réelle innovation dans la décennie qui vient, et les citoyens vont s'en rendre compte.
Merci à toutes les deux, Laurence Cialhomme, Natacha Valla. Le futur de la monnaie, votre livre publié avec Michel Aglietta aux éditions Odile Jacob, et il est à paraître le 24 février prochain.